Voilà, donc Emmanuel va nous parler de la gestion des machines virtuelles dans Windows Azure avec System Center, entre autres, enfin, et tout ce qu'on peut faire entre System Center et Windows Azure.
Exactement. Alors, attendez, je me prépare quand même. Il y aura 3 quarts de démo à peu près. Donc, je lance la plateforme. Ça arrive. Ok, parfait. Donc bonjour à tous. Donc, je m'appelle Emmanuel Torchi, je suis spécialiste sur tout ce qui est technologie de virtualisation, data center, cloud privé, cloud public et cloud hybride. Ça fait beaucoup de cloud. Donc je m'occupe en fait essentiellement en France de la montée en compétence des partenaires sur ces technologies-là. Voilà. Donc là aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation d'une heure à peu près. Sur tout ce qui est le management du cloud public et donc la constitution, la création, si on peut dire, d'un cloud hybride. Donc ça va s'appuyer essentiellement sur une gamme produit qui s'appelle System Center. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Et donc on va voir les différentes briques System Center et je vais vous faire de la démonstration autour d'un certain nombre de briques voilà, qui vont parler. Donc déjà, faudrait savoir ce que c'est, ce qu'on entend par tout ça, par l'OS Cloud. Donc là, l'OS Cloud, c'est celui qu'on retrouve dans le data center du client, par exemple, le data center, on va dire, à la maison, on-premise. Et puis le data center online, celui de Microsoft, mais pas que, il y a aussi le data center du hosteur. 10 secondes. C'était pas 1366?
Si, mais là, tu ne l'es pas.
Ah bon? Ah
tu
si?
l'es là, oui, mais pas. Ah, non, non, non. Regardez bien.
Ah.
Regardez
bien. Il est en train de tout me casser là.
Peut-être. J'ai pas mes lunettes.
Bon.
Ça, c'est bon. Donc maintenant, tu devrais le prendre comme ça. Voilà. Et maintenant.
Pourquoi j'ai ma barre en bas?
Oh, ça, j'en sais rien, ça vaut le 18. Comment on enlève la barre?
Bah, on va la descendre, oui.
Vas-y, tu peux.
Ben, hop là. Ah, il faut la déloquer. Ouais. Ah bah. Ah non. Ah, mais j'ai la barre. Bon, c'est pas grave. Hein. Ah oui, de l'autre côté. Ouais, vas-y, c'est bon, il faut la baisser. Ouais, bah on va baisser vu qu'elle est pareille. Ouais, peut pas.
J'arrive pas à la choper.
Ouais.
Pardon.
Bon, pendant que ça se règle, donc l'OS Cloud, c'est le fait en fait d'avoir le même OS qui puisse être géré à la fois dans on-premise, online et chez un hosteur. Avec les mêmes outils de management, finalement, on va réussir à administrer cet OS-là, cet OS Cloud. On va pouvoir avoir la même base de données, la même sécurité, la même identité également, quel que soit où finalement s'exécutent nos applications serveurs. Donc ça peut être très intéressant d'un point de vue de la gestion au jour le jour, on va dire, d'une infrastructure, qu'elle soit online, on-premise et chez un hoster, c'est les mêmes outils qu'on utilise. Donc ça, c'est la force aujourd'hui des solutions Microsoft. Donc cet OS Cloud, il va s'appuyer essentiellement sur un OS que vous connaissez bien, je pense, Windows. Et essentiellement sur deux déclinaisons, donc, qui sont Windows Azure, donc c'est le thème de la journée, ça tombe bien, et Windows Server 2012. Sur ces deux OS, on va avoir des gammes produits, notamment SQL Server, Visual Studio et System Center. Ces trois gammes produits vont vous permettre ici de gérer à la fois le Windows Azure et à la fois le Windows Server 2012. Aujourd'hui, dans cette session, je vais vous parler de System Center 2012 et vous présenter en fait les différentes briques fonctionnelles qu'on peut avoir pour manager cet environnement Windows Azure. Donc l'OS Cloud, System Center. System Center 2012, c'est la gamme produit dans laquelle on va retrouver l'intégralité des produits de management de Microsoft. System Center 2012, c'est une approche pragmatique de la démarche conceptuelle ITIL. Ouf, quand j'ai dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Parfait. Elle était belle, hein? Merci. Alors, approche pragmatique. System Center 2012 s'appuie sur MOF, Microsoft Operation Framework. MOF, c'est une approche qu'a réalisée Microsoft pour interpréter les différentes briques ITIL. Donc ITIL, c'est la démarche conceptuelle qui va nous permettre ici de justement avoir une IT dynamique, c'est-à-dire passer d'un data center basique à un data center dynamique. Le basique, ce que généralement on a dans le data center, malheureusement encore, c'est avoir des batteries de serveurs physiques avec un service égale un serveur. Ça coûte excessivement cher à entretenir, également à investir, mais également à administrer au jour le jour. Avec ITIL, on va tendre vers la consolidation, donc la virtualisation notamment. On va tendre vers une administration simplifiée et unifiée, et ainsi de suite. Et ça se décompose en processus. Les processus, vous les connaissez tous, dans la vie de tous les jours, vous les gérez. Gestion des incidents, des problèmes, des changements, gestion de la mise en production, gestion de la protection des données, et ainsi de suite. Et là, il y en a 10-12 à peu près de processus. Et bien, MOF s'appuie sur ces processus-là, et System Center s'appuie sur MOF. En gros, déployer System Center 2012, c'est déployer ITIL dans l'infrastructure IT. Et donc, en gros, c'est mettre au carré l'infrastructure afin qu'elle soit optimisée en temps d'administration, en termes d'investissement matériel, d'investissement dans le data center, mais aussi donc en termes de coût global sur ce que doit me revenir le data center au final. Donc avoir un meilleur ROI, en fait, retour sur l'investissement d'un data center. OK ? Ça, c'est System Center. System Center, dans la gamme Microsoft, se décompose en une multitude de produits, 8 exactement. Il y en a un qui est caché, il y a un 9e produit qui est caché, mais c'est SQL Server. Quand vous investissez sur System Center, SQL Server est fourni. Donc, pas besoin d'acheter un SQL Server, hein, voilà, c'est fourni. Après, vous avez 8 produits. Vous avez le premier, Virtual Machine Manager. Bon, il parle tout seul, celui-là. C'est un produit de gestion d'environnement virtuel. En gros, avec ce produit-là, vous pourrez faire ce qu'on appelle un cloud privé qualifié basique, c'est-à-dire avoir la possibilité de consolider tous vos hyperviseurs dans une seule et unique console, hyperviseurs qu'ils soient Microsoft, VMware ou Citrix. La gestion, vous la centralisez dans VMM, dans Virtual Machine Manager, et vous allez pouvoir déployer des clouds, déployer des machines virtuelles, quelle que soit la technologie de l'hyperviseur. Ce VMM va être extrêmement important pour avoir ce qu'on appelle tout ce qui est modèle et les modèles de services. Vous allez pouvoir créer des services. Un service, c'est quoi? C'est un ensemble de machines virtuelles interconnectées via un réseau, via voilà. Et donc, on va pouvoir délivrer un service, donc par exemple 4 ou 5 machines virtuelles, peut-être avec une base de données, une application et des frontaux web. Et vous allez pouvoir faire évoluer ce service-là en fonction de la charge que vous allez devoir supporter, par exemple, sur le service web. Et donc, du coup, ce service va évoluer dans VMM et va grossir. Donc ça sert également dans... on retrouve cette fonctionnalité-là dans VMM et on va retrouver cette notion de service également dans les cloud services dans Windows Azure. Vous avez dû voir ce matin. C'est exactement la même notion. Vous allez pouvoir mettre en fait un ensemble de machines virtuelles interconnectées et publier, par exemple, sur des load balancers en amont. On va retrouver Orchestrator. C'est un outil d'automatisation et de planification des tâches. Il fait les deux produits en un. On a des fois généralement l'automatisation d'un côté, la planification de l'autre. Là, on retrouve les deux outils dans un seul et unique produit. Orchestrator, c'est un peu comme Visio. Vous créez un schéma, vous les reliez, vous définissez le in, le out et l'action. Et automatiquement, vous allez pouvoir orchestrer une tâche bien particulière. Je vous en ferai une démonstration tout à l'heure. AppController, c'est le portail libre-service de l'offre System Center qui vous permettra de créer ce qu'on appelle le cloud hybride. Donc, le fait de pouvoir déployer à la fois chez on-premise, online et chez un hoster. Tout ça via un seul et unique portail qui s'appelle AppController. C'est un portail développé en Silverlight qui est très joli, vous allez voir, c'est assez sympathique, et qui vous permettra ici de gérer le déploiement, par exemple, de machines virtuelles dans Azure, mais aussi prendre le contrôle, arrêter les machines, et ainsi. Toutes les actions, on va dire, basiques de la virtualisation, on les retrouve dans AppController. Service Manager est un outil de helpdesk qui vous fera donc qui arrivera avec la gestion des incidents, des problèmes, des changements, tout ce qui tourne autour de la CMDB, Configuration Management Database, qui est en fait une base de données relationnelle de tous les éléments composant un IT. Typiquement, moi je suis un élément composant de mon IT. J'ai un badge et j'ai un compte Active Directory. Mais je suis relié à mon PC, que voici. Je suis relié à mon smartphone. Ben voilà, je quitte Microsoft demain, j'espère pas quand même, mais je quitte Microsoft demain, et ben, on me supprime dans l'objet IT, on est capable de savoir quels objets étaient rattachés à mon ID. Et donc du coup, je suis capable de redemander à l'employé qui part, ben voilà, il faudrait que tu nous rendes ton PC, il faut que tu nous rendes ton portable, et ainsi de suite. Tout ça, ça fait une grosse base de données relationnelle qui va nous permettre de faire plein de choses. Donc ça, c'est Service Manager, c'est toute la partie gestion des services. Il s'accompagne d'un portail SharePoint pour faire l'interface avec les utilisateurs, pour déclarer les incidents et ainsi de suite. Ensuite, Operation Manager. Operation Manager est un outil de supervision et de contrôle d'intégrité. Et j'insiste forcément sur l'aspect contrôle d'intégrité, parce que supervision, pratiquement toutes les solutions sur le marché le font, mais contrôle d'intégrité, assez peu de logiciels aujourd'hui existent. Contrôle d'intégrité, c'est le fait de pouvoir superviser un service dans sa globalité. C'est-à-dire de dire, ben voilà, sur 4 compteurs qui sont performance, disponibilité, configuration et sécurité, sur ces 4 compteurs-là, on va juger un service dans sa globalité à tout niveau, qu'il soit au niveau matériel, réseau, système, applicatif, service dans son ensemble et service donc global au niveau d'un IT complet. Et donc, du coup, grâce à ça, je suis capable de sortir quoi ? De sortir un SLA. Je suis capable de dire, sur telle infrastructure, sur tel service, j'ai eu tel SLA. Et donc, après, on fait ça joli avec des dashboards et qui vont bien. Voilà. Donc, ça, c'est Operation Manager. Et Operation Manager est capable, ici, de venir se connecter à Windows Azure pour, justement, superviser déjà l'environnement Windows Azure et derrière sortir des dashboards associés, des reports de performance et ainsi de suite. Ça, c'est Operation Manager. C'est un outil qui est assez sympathique, qui demande énormément de customisation quand même. Il ne faut pas le nier. Ça prend un peu de temps de bien le customiser parce qu'il est assez bavard au début. Puis après, quand on le customise, automatiquement, il devient moins bavard et il se fixe sur ce qu'on a vraiment besoin. Donc, c'est un beau produit très intéressant sur la supervision. Configuration Manager. Configuration Manager, c'est anciennement nommé SMS. Il est souvent connu sous ce nom-là. C'est un outil donc, d'inventaire et de déploiement. Inventaire matériel, inventaire logiciel, déploiement des masters, déploiement des applications virtualisées, déploiement des patchs. Ça fait beaucoup de choses. Tout ça dans une seule et unique console. Ici, avec Windows Azure, on va retrouver la possibilité de mettre un point de distribution Configuration Manager. Donc, les points de distribution, ce sont les points qui vont délivrer les packages, les masters et autres. Au lieu de le mettre, par exemple, dans des agences qu'on va répartir sur toute la France, on va le mettre dans Windows Azure et qui va délivrer au travers d'Internet directement sur toutes les agences. Vous voyez le scénario qu'on peut avoir avec Windows Azure. Donc ça, c'est assez intéressant également. Il y a un service que vous devez connaître qui s'appelle Windows Intune qui maintenant va s'intégrer également avec Configuration Manager. Configuration Manager pourra passer par Intune pour se servir de passerelle pour déployer directement sur tous les devices, notamment les petites choses comme ça, les smartphones, les tablettes et autres. Donc ça, c'est Configuration Manager. C'est un outil qui vous permet également de faire pas mal de choses au niveau inventaire, déploiement. Ça vous permet de mettre au carré. C'est plus orienté poste client que serveur, mais ça vous permet quand même de gérer, d'un point de vue central, l'intégralité des postes et des serveurs, et bien plus encore. Data Protection Manager, un outil de protection des données, donc sauvegarde, restauration, uniquement pour le moment dans l'environnement Microsoft. Il s'appuie sur des snapshots, donc il fait des photos, et puis il les synchronise sur un serveur central. Donc Data Protection Manager vous permettra de faire la sauvegarde de vos environnements virtuels sous Microsoft, ou non virtuels d'ailleurs, que ce soit de l'Exchange, du SQL, du SharePoint, des serveurs de fichiers, des serveurs Hyper-V, ça fait des photos et hop, ça centralise. On verra, je vous ferai une démonstration là-dessus, qu'on est capable également de centraliser tous les backups dans on-premise de la société sur le serveur DPM et d'envoyer ces backups dans le cloud, sur ce qu'on appelle le Windows Azure Backup Services, Online Backup Services. En fait, c'est ni plus ni moins que du stockage du Azure Storage qu'on met à disposition sous forme d'un service et donc automatiquement, on est capable d'aller sauvegarder dans ce service-là. Endpoint Protection, c'est un antivirus, anti-malware, anti-virus, anti-tout, qui vous permet, au niveau serveur, d'arriver avec la partie antivirale et de déployer sur tous les serveurs la partie antivirale, anti-malware. Il s'intègre directement dans Configuration Manager et profite donc du système de déploiement de Configuration Manager pour se déployer et se mettre à jour, évidemment. Voilà, vous avez vu, il y a quand même du monde. Il y a 8 produits, ça fait beaucoup de choses. Être expert des 8 produits, c'est très difficile. C'est pas évident, donc généralement on en prend 3-4 et puis on se concentre là-dessus, mais c'est pas si simple que ça. Ce schéma-là résume parfaitement aujourd'hui la stratégie Microsoft. La stratégie Microsoft est de pouvoir, sur n'importe quel environnement, data center, c'est-à-dire online, on-premise et hoster, d'accord, de pouvoir gérer la partie identité, virtualisation, données, tout ce qui est opération de gestion de dev et ainsi de suite, et le développement. Ce sont les 5 piliers aujourd'hui essentiels pour gérer correctement un data center. Et avec l'offre Microsoft, donc qu'elle soit complète au niveau... vous avez Windows et System Center, SQL, vous avez Hyper-V pour la virtualisation, Active Directory pour la partie identité, Visual Studio, développement et ainsi de suite. Tout ça, c'est géré. On a l'ensemble des informations, enfin l'ensemble des produits répondant à ces demandes-là aujourd'hui. Nous sommes le seul acteur sur le marché à avoir l'ensemble des produits. Ça, c'est très intéressant en termes de stratégie. System Center permettra de gérer l'ensemble des piliers. System Center vous permettra de gérer la virtualisation, permettra de gérer la partie identité également, avec la sauvegarde de l'Active Directory, par exemple, l'approche identitaire avec Configuration Manager, par exemple, la supervision de l'ensemble, et ainsi de suite. Donc, System Center, c'est un pilier aujourd'hui de l'offre Microsoft. Alors, il va arriver un Service Pack 1 qui sera incessamment sous peu délivré. Et c'est ce Service Pack 1 qui vous permettra de connecter System Center à Windows Azure. Là, j'ai mis toutes les fonctionnalités qui vont arriver, et encore, j'ai mis toutes les fonctionnalités qui vont arriver autour du Service Pack 1. Donc, c'est juste pour vous donner un avant-goût de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Et à savoir que le Service Pack 1 va avoir l'ouverture vers Windows Azure, mais également l'ouverture vers Linux, Unix, enfin les environnements non Microsoft, on va dire. Donc on va pouvoir superviser, alors c'est déjà le cas, on peut superviser les Linux, les Unix, les routeurs et ainsi de suite, mais là on va même pouvoir déployer par exemple avec Configuration Manager directement des packages applicatifs dans des Linux. Donc il y a quand même pas mal de choses, d'efforts dans ce sens-là. Il y a quand même pas mal de briques aujourd'hui qui vont être prises en compte et en charge et améliorées même avec le Service Pack 1. Le Service Pack 1, la GA, donc la Global Availability, sera pour janvier 2013. Donc c'est pratiquement demain. Pratiquement. Aujourd'hui, on est en version release candidate. Donc si vous voulez tester, vous pouvez la trouver. Voilà. Alors, la gestion du cloud, maintenant. Maintenant que j'ai défini toutes les briques, d'accord, toutes les briques différentes de System Center, on va se focaliser sur quelques briques, parce que je n'aurai pas le temps de tout vous montrer. Donc j'ai choisi App Controller, on va voir tout de suite, donc la portail, la partie hybride. J'ai choisi la partie backup, sauvegarde. Donc on verra une démonstration autour de Windows Server Online Backup Service et de Data Protection Manager. C'est ma vie, hein, c'est tous les jours ces acronymes-là. Donc, on verra ça. On verra aussi Orchestrator. Je vais vous faire une petite démonstration Orchestrator. Et petite sucrerie à la fin, le Service Management Portal. Donc vous verrez la démonstration du SMP qui sortira avec le Service Pack 1, qui aujourd'hui est en bêta, et qui, vous allez voir, reprend le portail Azure que l'on offre à tous nos hosteurs. Donc vous allez voir, c'est assez sympathique. Alors, pour commencer, hop, App Controller. App Controller, je l'ai dit, c'est ce qui vous permettra de faire la partie hybride. Donc, le contrôle en fait, de l'environnement virtuel, qu'il soit on-premise, online et hoster. D'accord ? Les 3 environnements, on va pouvoir les gérer avec App Controller. Donc ça, c'est extrêmement important d'avoir cette notion. Donc, au niveau gestion d'Azure, App Controller va nous permettre de faire des moves, par exemple, de machines virtuelles. Alors, vous avez dû voir CS Upload, par exemple, le fait de pouvoir prendre une machine virtuelle et de l'envoyer directement dans les nuages via un script. Avec App Controller, on prend une machine virtuelle dans son data center, donc celui qui est posé dans notre VMM, par exemple, et automatiquement, on prend la machine virtuelle et on va pouvoir l'envoyer en mode template, c'est un modèle, on l'envoie dans les nuages, dans Windows Azure. Alors, automatiquement, Ça prend un peu de temps quand même, parce qu'on n'envoie pas 50 gigas comme ça. Ça prend un peu de temps. Mais disons que ça nous permet quand même de faire une synchronisation, on va dire, au clic-clic-clic, via une console sympathique, vous allez voir, pour envoyer le tout là-haut. AppController va nous permettre également de faire la gestion de ces environnements virtuels, c'est-à-dire la partie prise de contrôle de la machine virtuelle, arrêt, redémarrage, delete, il faut bien deleter des fois, et ainsi de suite. Donc ça nous permettra de faire pas mal de prises de contrôle. Et après, on voit également la partie monitor, donc c'est-à-dire qu'on va avoir des remontées de performance relativement light, c'est vrai, mais ça va s'améliorer avec le temps, donc sur la CPU, la consommation mémoire, ainsi de suite, on verra. Ensuite, on voit Orchestrator, donc il arrive avec une Integration Pack qui va nous permettre de gérer, donc de déployer des machines virtuelles dans le cloud, et Operation Manager qui va nous permettre de superviser le Windows Azure. Alors, AppController, démo. Oh là là, j'ai tout cassé. Non, c'est bon. Voilà à quoi ressemble AppController. Donc c'est une console en Silverlight, c'est un portail web, faut pas chercher, voilà. Il ressemble à tout ça. On voit déjà que là, je suis Windows Azure, j'ai déjà deux services qui sont intégrés dans mon AppController, on les voit. Je peux voir la composition également au niveau machine virtuelle de mes deux services. On en voit également deux machines par service. Donc là, j'ai mon cloud services est composé de deux machines virtuelles, et là, c'est un autre service qui est à côté. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement déjà déployer une nouvelle machine virtuelle. Donc, déploy. Je vais choisir mon cloud. Et là, c'est très intéressant parce que je vois que j'ai le choix entre mon cloud public et mon cloud privé. Je vois que j'ai Azure, ici, AppController, c'est le premier, c'est un Windows Azure. Et puis là, je vois, hop, un cloud privé avec des ressources qui me sont serrées. Vous voyez que là, je peux déployer que 20 machines virtuelles, 40 CPU, et ainsi de suite. Parce que mon cloud privé, il a été dimensionné pour un certain volume, mais pas plus. Alors que dans Windows Azure, vous pouvez aller bien au-delà. Alors, vous voyez cette notion déjà d'hybridation, où finalement, je déploie où? Je déploie dans Azure? Je déploie dans On-Premise? Vous voyez, vous choisissez en fait l'environnement. Donc, c'est déjà assez sympathique à ce niveau-là. Donc, on va choisir Azure, parce que c'est le thème. Je vais choisir après mon développement, mon type de déploiement. Donc, on voit tout de suite que mes images se synchronisent, mes images, mes modèles, les modèles de machines virtuelles. On verrait également, ce que je l'ai fait, que j'ai des images. Voilà, ça, c'est mon image serveur 2012. C'est moi qui l'ai fabriquée à partir de Windows Azure. Je l'ai capturée dans mon environnement Azure et je l'ai stockée sur mon storage. Vous voyez que je les retrouve également, ces images. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déployer une image toute fraîche, par exemple, un serveur 2012 d'octobre. Voilà, OK. Ensuite, je vais choisir mon service. Alors, je pourrais créer ici un nouveau service. Bon, je vais choisir un autre service pour voir comment ma machine virtuelle va s'intégrer au service déjà existant. Okay? Donc ça, ça va être intéressant. Donc là, on choisit démo, c'est celui-là que j'ai choisi. OK. Et là, c'est magnifique. On voit tout mon service qui se dessine en Silverlight, donc, dans la console. On voit mes deux machines virtuelles, démo AD1, démo VM01. Donc, pour mes deux machines virtuelles déjà existantes, eh bien, je vais rajouter une nouvelle machine virtuelle qui va s'intégrer à cet environnement cloud et donc se connecter à ces machines virtuelles. Du coup, je vais finaliser le settings. Je vais lui donner un nouveau nom. On va faire démo VM02. On choisit l'instance, petite, grand, large. Enfin, vous avez vu ça. Hein, donc, on va choisir petite. On peut créer tout ce qui est availability set, donc tout ce qui est haute disponibilité, la disponibilité de la machine virtuelle. Ça, c'est intéressant. Donc là, j'en ai pas. Je vais pouvoir ici stocker mon disque dur. Donc voilà, hop, dans VHD. Donc je stocke mon VHD de ma nouvelle machine virtuelle sur mon storage. Donc j'ai choisi là. Je vais pouvoir lui rajouter des disques data disk. Donc des disques supplémentaires à ma machine virtuelle. Hein. Vous savez que vous pouvez aller jusqu'à 16 disques de 1 Tera chacun sur une extra large. Donc là, je passe. Je vais choisir ici mes différents subnets. Vous avez pu voir ça aussi. App subnet, AD subnet. Donc là, c'est une nouvelle machine virtuelle. Je vais choisir donc App subnet. Je continue. Je pourrais définir des nouveaux endpoints afin de publier, par exemple, le port 80 ou autre si j'ai envie, si j'ai besoin de ça. Ou carrément modifier finalement le port. Alors on voit tout de suite que le public port n'est pas affiché parce que comme je m'intègre à un nouveau cloud service, le 3389 a été pris par la première machine virtuelle qui a intégré ce cloud service, c'est-à-dire mon Active Directory. Du coup, lorsque je vais déployer la machine virtuelle, on va lui assigner automatiquement un nouveau port public lors du déploiement. Ce sera un 53 000 ou 54 000, quelque chose. Je vais lui définir le mot de passe local. Et puis, je vais même pouvoir lui dire d'intégrer un domaine. Donc là, c'est demo.com. J'ai fait ça très original. Voilà. Et bien, c'est fini. Maintenant que c'est terminé, je peux faire OK. Ma machine virtuelle est configurée. J'ai plus qu'à cliquer ici sur Deploy. Ma machine virtuelle est donc en cours de déploiement et elle se voit dans les jobs ici. Voilà, in progress. Donc ici, c'est en cours. On va pouvoir donc bientôt, ça monte sous peu, un certain temps, voir la machine virtuelle et prendre le contrôle sur cette machine virtuelle. En attendant, on va regarder un peu plus d'options. Comment je pourrais prendre ici une machine virtuelle existante dans mon VMM, que j'ai fabriqué moi, un template, un modèle que j'ai fabriqué moi sur mes petits Hyper-V, comment je peux le prendre et je peux l'envoyer dans Azure. Donc là, très simplement, je vais dans la librairie, ici. Je vois la librairie qui se constitue avec les images d'Azure et les images VMM, donc de mon outil Virtual Machine Manager, qui, je vous le rappelle, nous permet de gérer l'environnement virtuel Hyper-V, VMware ou Citrix sur un data center. Donc là, typiquement, j'ai envie, moi, par exemple, de rajouter des images sur mon store, par exemple. On va la rajouter où ? Voilà, sur des disques plutôt. Je fais Add ici, et là, je peux aller choisir directement, donc lui donner un petit nom, par exemple test, lui choisir, hop, la librairie, ça va arriver, c'est où déjà? Voilà, je vais la mettre, on va la mettre par là, par, ouais, image, c'est mieux là, voilà. On va le choisir, non, file pass, je suis bête. Attendez, hop, c'était l'autre. Je suis trompé de champ. Voilà, donc le file pass, c'est comment je vais charger, donc ici, hop, Cloud, VMM, voilà, j'ai des blancs disques, bon, d'accord, ils sont pas... et le conteneur de destination, où je veux le mettre, donc sur App Controller, et ainsi de suite. Donc dans Image, par exemple, on dit que c'est une image. Et puis voilà, je dis si c'est un Windows, un Linux ou rien du tout, et après de là, je clique OK. Alors, je ne vais pas le faire, parce que sinon, ça va prendre un certain temps. Mais je clique OK et ça envoie directement le fichier VHD dans mon blob Azure. Donc vous voyez l'intégration que nous avons entre la partie on-premise et la partie online. OK. Donc là, c'est toujours en déploiement normalement, parce que ce n'est pas si rapide que ça quand même. Voilà. On reviendra tout à l'heure pour cela. On va revenir sur les slides. Alors, la sauvegarde dans le cloud. Alors, la sauvegarde dans le cloud, premier service, vous avez ce qu'on appelle Windows Server Online Backup Service. Ça, c'est un petit service qui est arrivé avec Windows Server 2012 et qui nous permet en fait d'étendre les possibilités du Windows Server Backup. Vous savez que dans Windows Server, on a un logiciel de sauvegarde locale de la machine qui nous permet de faire des sauvegardes. Donc, et qui nous permet de faire des sauvegardes snapshot avec de l'incrémental et ainsi de suite. Au niveau même du noyau. Donc ça, c'est très intéressant. Et ben, on rajoute un petit plugin qu'on télécharge facilement sur Internet. De toute façon, ça, c'est fourni, en fait, l'agent est fourni lorsqu'on souscrit à l'offre Windows Azure Online. Et donc, vous mettez l'agent, vous l'installez, et vous pouvez sauvegarder directement un ensemble de fichiers de votre serveur physique vers, ou virtuel, hein, de votre serveur on-premise, vers le online. Ça, c'est la première version la plus light, si je puis dire, mais qui déjà peut dépanner et qui finalement n'a pas le coût d'un system center. Ça peut être très bien pour de la TPE et de la petite PME, pas forcément des coûts. Le problème de ce modèle-là, c'est qu'il n'y a aucune centralisation. Tout se fait d'un serveur vers le cloud. Donc du coup, si j'ai 10 serveurs, il faudrait que j'installe l'agent sur les 10 et que je gère individuellement les 10 agents. Donc ça peut être assez... c'est pour ça que je parlais plus de TPE, PME, mais c'est intéressant quand même de savoir que ça existe. D'ailleurs, je vais vous en faire de la démo. Deuxième point, c'est la partie DPM, Data Protection Manager. Là, c'est beaucoup plus intéressant parce que déjà, on a plus de scénarios de sauvegarde avec des restaurations beaucoup plus granulaires. Et donc, déjà, vous voyez qu'on peut sauvegarder pas mal de choses. qu'on peut venir centraliser ces sauvegardes directement sur un serveur Data Protection Manager, et après on peut disperser ces sauvegardes soit vers du disque, donc sauvegarde disque, soit vers des tapes par exemple, soit vers un autre Data Protection Manager pour faire un recovery, ou carrément donc le dernier directement dans Windows Azure. Donc ça c'est bien parce que ça va nous permettre de centraliser tout le backup, donc d'avoir une rétention d'un certain nombre de jours, par exemple 5 jours de rétention on-premise, donc pouvoir restaurer en localement les différents fichiers on-premise. Et puis, si j'ai envie d'avoir plus de rétention, mais que je n'ai pas envie de rajouter de disque où ça coûte cher, une baie de stockage, eh bien là, je rajoute, je me colle à Windows Azure, et c'est Windows Azure qui fait ma rétention supplémentaire d'un mois, deux mois, trois mois, ainsi de suite. Voilà l'idée. Donc ça, ça peut être très intéressant. DPM permet de faire du disque to tape, du disque-to-tape, disque-to-disque, et maintenant du disque-to-disque-to-cloud, ou du disque-to-cloud. OK ? C'est clair ? Ça n'a pas l'air comme ça, mais ce que je viens de dire, normalement, ça doit parler à énormément de personnes, parce que ce sont les termes bruts de la sauvegarde. Ça fait aussi la partie CDP, donc Continuous Data Protection. Donc ça vous permet ici, par exemple, vous éditez un fichier Excel, dès que vous avez fini de l'éditer, vous le fermez, il est sauvegardé, direct. Donc ça, il vous le permet de le faire directement aussi. Vous voyez que c'est relativement intéressant. Je dirais le seul petit hic, c'est qu'il ne couvre que l'infrastructure Microsoft. Il faut que ça soit dans un environnement Microsoft parce que Data Protection Manager utilise les snapshots, les VSS. Et il n'y en a pas beaucoup, enfin Linux n'a pas de VSS. C'est triste, mais voilà. Vous pouvez par contre sauvegarder des machines virtuelles Linux avec Data Protection Manager. La machine virtuelle est mise en pause, elle est sauvegardée, elle est redémarrée. Donc il y a une coupure de service. OK ? Donc, je vais vous faire une petite démonstration de la partie backup. C'est parti. Ah bah, failed. Sympa, j'ai dû faire n'importe quoi. C'est pas grave. Alors, la partie backup. Voici Windows Online Backup Services. Donc ça, c'est une console qui va vous permettre de gérer ce que je viens de vous dire, donc finalement la sauvegarde locale d'un serveur. Okay, vous voyez qu'elle est relativement simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite se connecter, on va scheduler un backup. Donc il se connecte à Windows Online Backup. On fait Next. On va choisir un item. Donc moi, je vais choisir un item. J'ai déjà préparé un répertoire qui s'appelle ToSave. D'accord ? Que je vais vous montrer le contenu du répertoire quand même. Donc ce sont un pack avec plein de présentations sur System Center qui fait environ une centaine de mégaoctets. Donc on va envoyer ce pack directement dans le cloud. Donc on l'envoie, clac, next. Bon, alors là, on peut planifier quand est-ce qu'on le fait. On planifie la sauvegarde finalement. On planifie les jours de rétention également. Et on finit. Donc là, il crée le backup. Voilà, c'est fini. Il m'a créé donc une nouvelle instance. Je vais tout de suite cliquer sur Backup Now pour backuper maintenant. Backup Now, il me backup. Ça prend un petit moment quand même. Donc là, on voit ici que je peux sauvegarder à peu près n'importe quoi hein, sur le Windows Server. Un System State, par exemple, c'est faisable. On va pouvoir sauvegarder des fichiers, évidemment, mais aussi des machines virtuelles. C'est faisable. En fait, tout ce que Windows Server Backup est capable de sauvegarder, on serait capable de le sauvegarder également avec ce petit outil-là. Donc ça peut être intéressant. Donc l'idée, ce serait plutôt, par exemple, de sauvegarder donc, localement avec Windows Server sur un emplacement local, et puis après, je viens de sauvegarder cette même sauvegarde pour l'envoyer dans le cloud, si on a envie de faire ça. C'est aussi possible. Voilà, là, vous voyez que la sauvegarde commence, donc on est à 50 mégas, 64, il y a une centaine, 120, je ne sais plus par là, 120 ou 130, je ne sais plus trop. Vous voyez que c'est relativement rapide quand même. Bon, je suis à 100 mégas derrière. Ça aide un peu, hein. Ah bah 160, allez. Voilà. Donc là, il vérifie, 160, il vérifie le backup. Et donc je vais pouvoir ici, on va faire une restauration maintenant, on va tout casser de l'autre côté et on va restaurer. Voilà, job complete, c'est parfait, c'est sauvegardé. Donc on voit que ça s'est fait, hein, pas de souci. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir casser le tout. Je vais aller dans tout save ici, je vais prendre ça et je vais faire supprimer. Continuer. Paf, il n'y a plus rien, on est d'accord. Hein. Donc maintenant, on fait recovery data, next, browse file, ces deux points. Hop, on voit que j'en ai une qui s'est passée à 15h37. Il est 15h39. Je pense que c'est cohérent. Next. Hop, on va sauvegarder. Voilà, tout save, par exemple. Ça, voilà. Original location, créer une copie. Oui, hop. Il y a plusieurs, vous voyez, plusieurs options. Hein. Voilà, donc là, maintenant, c'est en train de restaurer les données dans le répertoire d'origine. Vous voyez que ça fonctionne, c'est super simple. C'est du next, next, next. Hein. Enfin, c'est Microsoft, quoi. Du clic, clic, clic. OK. Voilà, donc ça va le faire. En attendant, je vais aller chercher... Voilà. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Vous allez voir. Non. Voilà. Voilà, donc là, ces recovery, c'est bon. Mes fichiers sont de nouveau là. Vous avez vu, ça fonctionne parfaitement. Il n'y a pas de souci, vous avez vu que c'est relativement rapide. Alors maintenant que j'ai fait ça, eh ben, je vais deleter. Et pour deleter, vous voyez, j'ai fait exprès, tout est scriptable. Donc je vous montre comment deleter par script la sauvegarde que je viens de faire. Donc c'est une commande PowerShell, vous voyez que ce n'est pas très compliqué, hein, elle est relativement simple. On l'exécute. Il demande oui ou non, vous êtes sûr, hein, parce que, bon, on va dire oui. Et là, vous allez voir ce qui va se passer. Paf, voilà, il n'y en a plus. Donc là, si je ferme maintenant, que je fais recovery data, next, browse, il n'y en a plus. J'ai supprimé ma sauvegarde. Vous voyez que c'est super simple quand même. Hein. C'est super, super simple. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, bah, on va prendre une autre console qui s'appelle DPM. Ah, le redimensionnement. Voilà. Ça, c'est la console Data Protection Manager qui fait exactement la même chose, mais qui centralise les données en local. Donc, il a un serveur de sauvegarde, il centralise tous les serveurs chez lui, et puis après, il va pouvoir envoyer le tout sur Azure. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer donc, un nouveau groupe de protection. Donc, next. On va dire que c'est du serveur. On va sauvegarder sur un serveur, un répertoire, n'importe. Je vous montre juste les techniques en fait, de sauvegarde. Voilà, on va sauvegarder le répertoire script ici. On dit oui parce que, voilà, on fait next. Et là, vous avez la petite case, voulez-vous sauvegarder dans le cloud? Donc on voit qu'il y a ici une configuration qui a été réalisée. En fait, j'ai tout simplement installé le même agent que je vous ai présenté juste avant. Je l'ai installé sur mon serveur de backup et maintenant, mon DPM il est capable d'utiliser cet agent-là pour envoyer le tout dans le cloud. Donc, vous voyez que tout passe par ce petit agent que je vous ai présenté juste avant. Donc là, on va dire oui. Next. Next. Voilà. Donc là, il pose plein de questions sur la location, combien ça va me prendre de données, tout ce qui est... Bon, ce sont des détails. Voilà. Alors là, c'est la configuration pour le cloud. Là, on voit. Donc oui, je veux sélectionner ça pour le cloud. Là, le délai de rétention, on retrouve les mêmes questions qu'on a eues précédemment dans l'utilitaire. Et je peux créer donc dès maintenant un groupe. Là, il est en train de créer le groupe. Donc, il formate la partition locale, parce que je lui ai donné un disque localement. Donc, il est en train de partitionner localement la sauvegarde. Et puis, il va copier la première sauvegarde et l'envoyer là-haut. Voilà. Donc, ça va se faire. Il faut un petit peu de temps, le temps qu'il prépare l'ensemble. Data Protection Manager va vous permettre de centraliser donc l'intégralité des informations, des sauvegardes, et les envoyer dans le cloud. C'est ce qu'il faut retenir. Et vous voyez que c'est relativement simple, ce n'est pas très compliqué. Donc là, succès, parfait. Voilà. Donc là, il est en train de faire sa première réplication, Replica Creation in Progress. Et d'ici quelques secondes, minutes, je ne sais pas trop combien de temps ça va durer, et ben, il aura fini, donc il aura sauvegardé en local et envoyé dans le cloud. On peut retrouver, si on va dans Management, toutes les configurations du backup online ici. Voilà. Donc là, on voit que j'ai intégré, donc là, il utilise 0K encore, il n'a pas fini. J'ai intégré donc la partie certificat, il y a tout un micmac, enfin, voilà, pour mettre ça en place. Alors, nouvelle démo, c'est maintenant la partie Hop, disconnect, reconnect. On change totalement de produit. Donc, on a vu App Controller, on a vu Data Protection Manager et la sauvegarde online. Et maintenant, on va voir Orchestrator. Orchestrator, pour rappel, c'est l'outil d'automatisation des tâches. Ici, on va venir créer un petit script qui va nous créer une tâche dans Windows Azure. Donc, c'est un IP, donc c'est Orchestrator, vous le voyez, c'est une console qui est très, très light. On va construire, en fait, une sorte de schéma visio et on va venir exécuter ce runbook, on appelle ça un runbook, directement pour qu'il aille taper Azure. Alors, vous voyez qu'ici, on va avoir des IP hop, Azure, que l'on retrouve ici sur le côté. Hop, là, voilà. Donc, il y a plusieurs IP. Alors, je vais essayer de... Pas évident avec la résolution. Hop. Hop. Eh bien, ça ne change pas grand-chose. Voilà. Alors, vous voyez ici, je peux avoir géré tout ce qui est certificat. Alors, c'est sur le côté ici. Donc, les certificats d'Azure. Ici, je vais avoir géré les cloud services d'Azure, géré les déploiements d'Azure, donc les déploiements PaaS, par exemple. Vous pouvez automatiser le déploiement PaaS dans Azure. Gérer toute la partie stockage d'Azure, toute la partie virtual machine, disque, les virtual machine image, et puis tout ce qui est virtual machine pure, brute, c'est-à-dire déployer de la machine virtuelle comme ça. Alors, nous, on va monter un petit scénario. Alors, je vous présente comment on fait pour que vous soyez, vous voyez, je vais déjà avoir un initialize data. Vous voyez, je prends, je pose. Je vais donc initialiser des données. Première donnée que je vais initialiser, par exemple, je vais ajouter, ça va être une string, et je vais initialiser la donnée VM name. Je vais lui donner un nom pour ma machine virtuelle. Très bien. Je vais ajouter une deuxième string, et on va appeler ça disk size. Taille du disque. Mais cette fois-ci, ça va être hop, un integer. D'accord. Un integer. Vous faites finish, voilà. Donc là, vous avez, déjà, j'ai initialisé mes datas. C'est-à-dire que lorsque je vais exécuter mon runbook, il va me poser des questions, et les questions, ça va être le nom de ma machine virtuelle, la taille du disque. Pas plus compliqué que ça. Maintenant, on va lui dire, je vais ajouter un disque à une machine virtuelle. Donc, je vais aller voir le IP d'Azure, et j'en ai un qui s'appelle, ici, Azure Machine, Virtual Machine Disk. Je double-clique dessus. Alors non, je vais d'abord relier. Voilà, je les relis, je mets une relation et je vais lui dire sur quel Azure il faut aller. Donc moi, j'ai déjà préconfiguré avec les certificats, tout ça, la connexion avec Azure. Donc ça, ça me sort un nom qui s'appelle original, enfin, c'est original, mais Azure. Et je me connecte sur ce connection, en fait, d'accord ? C'est ma connection string, si vous voulez. Donc là, je me connecte dessus et il me sort, qu'est-ce que vous voulez faire ? Et là, j'ai toutes les activités. Par exemple, ajouter un disque à une VM, ajouter un disque data disk à une VM, et ainsi de suite. Vous voyez, toutes les listes, lister les disques, dileter les disques, et ainsi de suite. Donc nous, là, on va typiquement, par exemple, VM data disk, voilà, et hop, automatiquement, le formulaire s'adapte. Donc là, il va me demander le VM role, d'accord, donc c'est le nom de ma machine virtuelle, je fais clic droit dans le champ, je ne la connais pas, je vais lui rentrer, je voudrais que ça soit automatisé, ça. Donc là, clic droit, publish data, et regardez, il me sort ce que j'ai saisi précédemment, l'initialize data avec le VM name et le disk size. Donc du coup, je vais taper ça, je vais aller lui dire, là, VM name, hop, et automatiquement, il prendra la donnée que je lui aurais donnée, la initialisée au démarrage. Donc je n'ai pas besoin de la saisir. Et pour tous les champs, vous pouvez faire ça. Okay, je ne vais pas saisir tous les champs, parce que sinon, on y est encore demain. Donc j'ai déjà préparé en amont le runbook, donc on va le regarder ensemble. Alors, le runbook que je vous ai préparé, il est là, un petit peu plus complexe, pas beaucoup plus complexe. Hein. J'initialise les données, la même chose. Je vais ajouter un disque à une machine virtuelle, à chaud. Et après, je récupère le fichier RDP qui me permettra de me connecter sur la machine virtuelle. Et donc, normalement, quand je vais me connecter dessus, je vais pouvoir voir apparaître le disque ajouté. Donc là, c'est parti, runbook. Voilà, j'exécute. Voyez, hop, il me pose les questions. Donc, on va donner une taille de disque. 10. Enfin, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est monsieur. Allez, 10 gigas. Je lui donne VM01. Donc, c'est le nom de ma machine virtuelle. Je fais OK. Il exécute. Et en parallèle, je mets ici, hop, vous allez voir apparaître, oh là là, non, voilà, quand ça sera terminé, donc là, il attend, il ajoute le disque, il va attendre, on attend la fin de l'ajout de disque. Une fois que ça sera terminé, il va aller chercher le fichier RDP et il va me le mettre dans ce répertoire-là. J'ai créé un répertoire local où je lui dis, bah, le fichier RDP, il faut me le poser là. D'accord ? Avec ça, vous allez pouvoir automatiser toutes les tâches d'Azure. Donc ça, c'est, vous pouvez faire énormément de choses. Plein de scénarios peuvent s'ouvrir avec ça, avec cet outil-là. Avec le Service Pack 1, cet outil sera supporté dans Windows Azure. Donc vous n'aurez même pas besoin de le mettre on-premise, vous pouvez l'héberger dans online. Donc directement dans une machine virtuelle Azure, vous pouvez créer vos runbook orchestrateurs et directement le gérer à partir d'Azure. Ça sera faisable. Mais sinon, en on-premise, vous pouvez comme moi, là je le fais, et donc orchestrer vos déploiements. Typiquement, je vous donne un scénario très très sympathique. Vous savez sans doute qu'une machine Windows IaaS, vous l'allez facturer lorsqu'elle est on, ce qui est logique, mais aussi quand elle est off. Vous payez même quand la machine est arrêtée. Donc imaginez maintenant que vous avez un petit système d'orchestration qui, lorsque la machine est off, finalement, eh ben, il dilate la machine virtuelle, mais il garde l'OS disque et le data disque. Et sur demande, eh ben, il recrée la machine virtuelle et il la start. Vous pouvez imaginer ce genre de petits scénarios afin de faire des économies d'exécution, de facturation au niveau d'Azure. Voilà, c'est terminé. Il m'a sorti le fichier RDP que vous avez vu apparaître de l'autre côté là-bas, avec le nom, parce que je lui ai donné le nom. Je me connecte maintenant sur la machine virtuelle avec le fichier RDP téléchargé. Hop, il est là. Ça, c'est les disques, mais vous me dites, il est où mon disque de 10 gigas? Il faut faire un refresh de la console. Donc là, je fais un petit refresh de la console. Giga. Sympathique quand même. Okay. Voilà, donc ça c'est pour Orchestrator, c'est plutôt sympathique. Vous pouvez faire plein de choses avec cette chose-là, c'est un vrai bijou cet outil. C'est mon préféré, pour vous dire. Il est super. Donc, on va basculer sur la partie slide pour vous expliquer maintenant la petite sucrerie de la fin. C'est bientôt fini. Orchestrator, bon, on l'a vu. Service Management Portal. Donc ça, c'est une petite nouveauté qu'on va sortir avec le Service Pack 1, normalement, qui va vous permettre, en fait, pas mal de choses, notamment de faire ça. C'est-à-dire que vous avez un client, et ben, vous avez vu l'approche client qui se connecte à un app controller, qui permet donc de délivrer des machines virtuelles, de gérer son cloud privé et son cloud hybride, on va dire, dans l'ensemble. Et on va mettre en plus ce qu'on appelle un SPF, le Service Provider Foundation, qui va transformer toutes les fonctionnalités des produits Virtual Machine Manager, Orchestrator, Operation Manager et même Data Protection Manager, enfin toute la gamme System Center, en API REST, OData, en OData REST, OData ou REST. Donc vous avez la possibilité après, une fois que c'est transformé sous cette forme-là, c'est une sorte, c'est exposé, les API sont exposées, et donc on va pouvoir connecter un portail que nous fournira, mais pas que, vous pourrez aussi vous créer votre propre portail pour faire ce que vous voulez faire. Et App Controller pourra aussi passer par ces API-là. Donc, voici à quoi ressemble ce portail. Alors déjà, ça, vous connaissez bien, j'ai rien inventé jusqu'ici, c'est Windows Azure. On est d'accord. Moi, j'ai plein de services activés. Donc, voilà. Mais ça, c'est Windows Azure. Maintenant, le portail qu'on va fournir. Vous voyez déjà qu'il y a un login qui est fait. D'accord. Alors, j'ai déjà tout prêt à CT1. Vous voyez déjà qu'il y a le même icône qui tourne. Si ça veut bien se connecter, on y arrivera. Voilà. Voici le portail que l'on va fournir à nos partenaires. Hoster, plus sur Hoster, mais vous pouvez mettre ça à la maison aussi. Hein. Enfin, c'est ce que j'ai fait, mais... Donc, vous voyez, là, j'ai SQL Server, MySQL, vous pourrez avoir les machines virtuelles. Alors, je vous montre le portail d'Admin, par exemple. Le portail d'Admin, il est là. Ah, raté. Voilà, vous voyez que je peux gérer les web sites, les VM Cloud, les SQL Server, les MySQL. Je peux avoir des notifications par mail, l'échange de mails et ainsi de suite avec le client. Je peux avoir des plans. Alors ça, c'est intéressant parce que je peux avoir des plans de différentes façons. Donc d'exposer, vous avez vu dans le portail, je n'ai exposé que la partie SQL et MySQL. Et vous ne voyez pas les VM ni les web sites. C'est normal parce que je suis sur le plan bronze. Le plan bronze n'expose que ça. Mais le plan gold expose tout le reste. Et ainsi de suite. Donc vous pouvez gérer vos user accounts et ainsi de suite. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur le portail ici. Et puis, je vais créer ici un SQL Server. Je vais rajouter une nouvelle base de données. Par exemple, on va appeler ça test. Ça va. Sur le plan bronze, OK, je vais lui dire le login, admin. Voilà, on valide. Donc là, c'est en cours de création. Il est en train de me créer une base de données de type SQL. C'est fini. Vous voyez que la base de données, elle est en état de santé correct. Elle a 1024. Elle est sur le plan bronze. Okay, si je la sélectionne, je vais même pouvoir voir sa connection string. Donc pouvoir après utiliser dans vos applications et ainsi de suite. Je peux la deleter et changer le password. Si je retourne maintenant, je vais voir ma base de données. Vous voyez que ça, c'est la base de données sur laquelle j'ai créé l'application test. Vous ne la voyez pas. Donc je vais faire un F5 parce qu'en fait, il faut rafraîchir. F5, test, elle est là. Donc elle s'appelle test. Et évidemment, derrière, pour l'unification, on lui a rajouté un petit ID, quoi. Généré automatiquement. Donc évidemment, vice-versa, hein, si je supprime cette fois-ci la base de données, vous pensez bien que ça va supprimer de l'autre côté, voilà, c'est terminé. Si je retourne ici, que je fais database F5, terminé. Et là, j'ai reseté ma plateforme de démo. Voilà, ça, pour mettre ça en place, si vous mettez tous les rôles en place, il vous faut 9 machines virtuelles. Ça demande un peu de travail. Par contre, ce qui est bien, c'est que tout est automatisé au niveau des déploiements des différents rôles. En fait, vous déployez d'abord le portail et à partir du portail, vous allez déployer les différents rôles. On va pousser les différents rôles sur les deux IS et ainsi de suite. Ce qu'il faudra, donc, c'est déployer d'abord le portail et le SPF, notamment, pour faire ça. Et en amont, évidemment, la base de données. Voilà. Donc, et ben voilà, j'ai à peu près terminé la session. Donc, pour résumer... Pour résumer sur ce que vous nous venez de voir, je ne vous ai pas tout montré, hein, je vous ai montré que la partie, on va dire, app controller, la sauvegarde, et puis orchestrateur et le SMP. Il y a encore configuration manager à regarder, operation manager. Bon, il y a quand même pas mal de produits encore à regarder. Bon, je n'ai pas forcément eu le temps aujourd'hui. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que System Center, c'est bien. OK ? Merci à vous.